Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et l'appela du nom Ébénézer. Jusqu'ici, en disant jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors on voit qu'en dressant, on peut voir en dressant cette pierre, Samuel instaure un mémorial. Il dresse une pierre et Samuel avait, on peut revoir à travers ce texte, un triple but que Samuel poursuivait en dressant cette pierre. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'il voulait faire porter un regard, porter le regard sur le passé. Il voulait que le peuple puisse, en regardant cette pierre, jeter un regard sur le passé, sur leur passé. Deuxièmement, il voulait regarder, faire le souvenir du présent. Ils viennent d'avoir une victoire. Et de manière exceptionnelle, de manière vraiment inespérée. Ils veulent rappeler ce souvenir. Et troisièmement, ils veulent aussi que, quand Israël va regarder cette pierre, ce monument, qu'il puisse penser et projeter, faire un regard sur l'avenir. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et le mot jusqu'ici, justement, nous porte, nous force à porter un regard vers le passé d'Israël et se demander qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a eu lieu? Pourquoi Israël avait besoin d'être secouru? C'était quoi le problème d'Israël? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est produit pour que Israël puisse avoir besoin d'un secours? Alors, le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, c'est un livre de transition. Lorsqu'on le lit, c'est un livre qui fait la transition entre, on peut dire, une forme de théocratie qui est installée sur Moïse, et Moïse n'est plus là, et il était remplacé par Josué, etc. Et là, il fait une transition vers la monarchie. On va voir plus loin, si on lit le livre de Samuel, on voit que Saül, David, etc., c'est les rois qui s'installent. Mais c'est aussi une transition entre tout ce qui était sacrifice, sacrificateur, qui était établi, qui a une transition vers ce qui est prophète. On voit Élie qui va être remplacé par Samuel. Et la situation du peuple d'Israël dans le contexte, on vient de finir le livre. En fait, c'est la fin de la période des juges. Et on voit que le problème d'Israël, c'est un problème d'idolâtrie. Le peuple, il y a la préoccupation majeure de ce temps-là, c'est la sainteté de Dieu. Dieu est partagé. Il y a un culte qui est mélangé entre l'idolâtrie, qui est mêlé avec de l'immoralité. Et c'est dans le contexte que se trouve Israël. Le deuxième chapitre et le troisième chapitre du livre de Samuel expliquent, montrent cette dépravation ou cette ruine de la sacrificature. On raconte l'histoire des deux fils d'Élie, le sacrificateur, Ophni et Phiné, qui ont profané le temple en couchant avec des femmes à l'entrée de la tente. À partir du chapitre 4, il est question du peuple tout entier qui se laisse aller dans l'immoralité et l'idolâtrie. Et ils ont perdu le sens de la sainteté de Dieu. Au chapitre 4, on voit que Israël livre combat contre les Philistins. Les Philistins qui sont les ennemis jurés d'Israël. C'est intéressant, Israël subit une première défaite. 4000 hommes tombent au combat. Alors, ils comprennent pas pourquoi, c'est quoi la cause de leur défaite. Ils disent au verset 3, chapitre 4, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui ?» Alors, ils se posent des questions. Ils se trouvent étranges. Ils se sont pas posé la question, mais c'est quoi les stratégies des Philistins? Pourquoi, comment les Philistins ont pu nous battre? Il dit, pourquoi l'Éternel nous a laissé battre aujourd'hui? Ils se sont pas posé la question, pourquoi, c'est quoi les armes que les Philistins avaient, mais pourquoi Dieu nous a laissé tomber? Alors, ils décident d'aller chercher l'arche de l'Alliance, l'arche qui représente la présence de Dieu, qui était à Silo, et là, ils vont voir les anciens, ils disent, amène l'arche! On va aller avec l'arche. Et on va pouvoir triompher des Philistins. Alors on voit que les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, Ophni et Phiné, alors ils sont avec l'arche. Et là, le peuple voit l'arche arriver, ils poussent des cris de joie. Parce que la présence de Dieu est là. Alors, les Philistins qui sont de l'autre côté du camp voient ça, ils disent, malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Parce qu'ils savent que Dieu avait agi dans le passé en Égypte. Ils savent comment que Dieu avait permis à Israël de sortir, de quitter l'Égypte. Mais les Philistins se sont fortifiés et livrés à bataille à Israël. Israël, à nouveau, fut battu. Et le texte dit que 30 000 hommes tombèrent au combat. Alors, le premier, il y a eu 4 000. Deuxième fois, il affronte les Philistins, il tombe 3 000, ça fait 34 000. Et pire encore, l'arche de l'Éternel fut prise. C'est une terrible nouvelle. Quatre fois dans le chapitre 4, c'est répété que l'arche de l'Éternel a été prise. Alors l'arche, qui était devenue un objet de superstition, de porte-bonheur, alors que le peuple pensait que aller prendre l'arche, ça va leur donner la victoire, mais Dieu n'était pas au milieu du peuple. Alors ils ont fait venir l'arche. L'Éternel, c'est pas un fétiche. Ce n'est pas l'arche qui délivre, mais c'est l'Éternel. Alors, les conséquences, si on lit le chapitre 4 et suivante, on voit que les deux fils d'Élie sont morts. Élie lui-même, en apprenant que l'arche a été prise, il était sur une, je sais pas comment on appelle ça encore, une berceuse, non pas berceuse, chaise berçante, hein. Et il a appris la nouvelle, il est tombé et son cou, sa nuque est brisée. Il meurt. Sa belle-fille, la femme de Phiné qui était enceinte, mourut dans l'accouchement. Mais il y a eu le temps de donner naissance à un petit garçon qu'elle donna le nom de Ichabod, qui veut dire que la gloire de l'Éternel est bannie. La gloire est bannie en Israël. La gloire de Dieu est bannie. Alors, c'est dans ce contexte, si la gloire de Dieu n'est plus là, ce qui reste, c'est que désespoir, c'est la ruine. Et c'est dans ce contexte qu'Israël se trouve, et ce qui nous amène au chapitre 7. La situation, c'est qu'il y a eu la profanation du temple par les fils d'Élie, le sacrificateur, adoration des idoles, défaite coûteuse pour Israël, la prise de l'arche. Et c'est pour ça que nous lisons qu'il s'est passé bien des jours depuis le jour où l'arche avait été installée, l'arche avait été prise. 20 ans. Israël souffre entre les mains des Philistins. 20 ans. Et c'est comme dans la période des juges. À chaque fois qu'on voit qu'Israël pêche, tombe dans l'idolâtrie, adore d'autres dieux, le peuple, qu'est-ce qui arrive? Est affligé par l'ennemi. Dieu permet que l'ennemi les afflige, les oppresse. Dieu permet d'autres nations d'opprimer Israël. Le peuple s'adonne à l'idolâtrie. Dieu permet que les Philistins l'oppriment. Israël souffre. Mais voilà qu'après 20 ans, le verset, à la fin du verset 1 et 2, Israël pousse des gémissements à l'Éternel. Israël crie à l'Éternel. C'est intéressant. Ça a pris 20 ans avant qu'ils réalisent leur situation, leur état. Et là, ils sont plus capables. Alors, ils poussent des gémissements. Ils poussent des cris à l'Éternel. En fait, on peut penser que ces gémissements, peut-être, c'est des signes de repentance que Israël a compris. Mais Samuel n'a pas présumé que, à cause que le peuple gémisse, c'est de la repentance. Alors, il dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ouais, parce que pas parce que vous gémissez que vous êtes nécessairement repentant. Il dit si vous de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors voilà ce qu'il faut faire. Ils ont besoin de revenir à l'Éternel pour exprimer publiquement leur repentance. Alors, Samuel leur prêche l'Évangile. Samuel leur prêche l'Évangile en disant que si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Servez-le lui seul. Samuel demande quatre choses ici. Il dit revenir à l'Éternel de tout votre cœur. Ôtez les dieux étrangers, les astartés, les idoles. Dirigez votre cœur vers Dieu. Et quatrièmement, servez l'Éternel lui seul. Lui seul. En fait, Samuel est en train de dire, regarde, si vous êtes vraiment sérieux, si vous êtes vraiment sérieux, et si vous êtes vraiment sincère, dans votre repentance, voici ce qu'il faut faire. Une véritable repentance s'accompagne des actions concrètes. Une vraie repentance s'accompagne d'actions concrètes. Il faut faire demi-tour, prendre le chemin qui mène vers la confession des péchés et prendre une ferme résolution de servir Dieu seul. Israël devrait se débarrasser des idoles. Chose qui, c'est intéressant parce que après leur entrée en Canaan, Israël avait reçu l'ordre de posséder tout le pays, de prendre possession de tout le pays. Ils ne l'ont pas fait. Il reste une partie que les Philistins ont occupée. Et quelques années après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Israël s'est accoutumé aux mœurs locales. Les Philistins c'est des idolâtres. Astarté est une déesse très honorée par les Philistins. C'était la femme de Baal, dieu de la fertilité. Et le pluriel ici, ôter les dieux, c'est déjà une indication qui nous dit qu'il n'y avait pas seulement un ou deux, il y en avait plusieurs dieux, plusieurs idoles. Et ce qui était plus grave, l'adoration de Baal et Astarté était souvent accompagnée par des pratiques sexuelles immorales. Alors Israël était dans cette situation-là où ce qu'il adorait d'autres dieux et pratiquait aussi vivait ou encore dans l'immoralité. Et voilà ce qu'ils ont fait pendant 20 ans et peut-être même plus. Peut-être ils ont commencé depuis que les fils d'Élie ont profané le temple. Mais un véritable retour était nécessaire. Un véritable retour à l'Éternel impliquait que Israël puisse se débarrasser des dieux païens. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Les dieux païens, eux autres, ne sont pas exigeants, eux autres. Baal n'est pas exigeant. Tu peux servir Baal, tu peux servir un autre en même temps. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Un culte mélangé était et est encore insupportable aux yeux de Dieu. Servez Dieu seul. Vous savez, j'entends, on raconte beaucoup, les anciens, des gens qui donnent leur témoignage lorsqu'ils veulent devenir membres. Mais des fois, on entend souvent, je donne ça comme exemple, mais les gens disent, avant que tu deviennes chrétien ou avant que je me convertisse, je faisais ceci, je faisais cela, maintenant je ne fais plus ça. OK, un exemple concret. Avant, je pratiquais le vaudou, par exemple, ou je servais le diable, parce que vaudou associé au diable. Maintenant, je ne pratique plus les activités démoniaques. OK, c'est bien. C'est bien. Mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu parce que tu as arrêté de faire les activités démoniaques. Oui? Non? Parce que vous savez, c'est que on pense que le fait que de cesser de pratiquer le vaudou ou autre chose, de faire mettons, tiens, je sais pas, je fumais, je ne fume plus, je buvais, je ne bois plus, etc. C'est bien de ne plus boire, c'est bien de ne plus fumer, c'est bien de ne plus pratiquer, mais ça fait pas de toi un enfant de Dieu, un chrétien. Parce que, de toute façon, avant de devenir des chrétiens, nous étions tous des enfants du diable. La question, est-ce que je sers le vrai Dieu et lui seul? Est-ce que maintenant, oui, tu as cessé de pratiquer, mais est-ce que maintenant tu sers Dieu? En fait, c'est un principe qui est biblique. Lorsque Paul nous dit, dans Éphésiens 4, lorsqu'il décrit un chrétien, il dit, ok, avant je mentais, maintenant je mens plus. Mais est-ce que maintenant tu dis la vérité? C'est parce que c'est pas... La vraie importance, c'est pas juste de dire que je ne mens plus. Parce que c'est bien de ne plus mentir. Mais maintenant, est-ce que tu dis la vérité? Vous voyez, c'est pas de cesser de pratiquer. Mais est-ce que maintenant, tu sers Dieu et Dieu seul? Et c'est un signe d'une vraie repentance. Dieu veut que nous ayons un cœur tout entier à lui. Un engagement complet de notre cœur et le servir, lui seul. Alors la réponse des Israélites à Samuel dans le verset 4, les Israélites ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astarté et ils servirent l'Éternel seul. Alors c'est un point tournant dans le texte où ce qu'on voit après 20 ans, Israël, il y a un signe d'une repentance. Israël s'est repenti. Israël se détourne des faux dieux et pour se tourner vers le vrai Dieu et le servir seul. Au verset 5, Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » Mitzpah, c'est juste un lieu de rassemblement. Tout au long de l'histoire d'Israël, on voit ce nom répété. C'est là où ce que Samuel prie pour le peuple. Et alors le peuple se rassemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau, ils répandirent devant l'Éternel et jeûnèrent en ce jour-là. Et c'est là qu'ils dirent, quoi? Ils confessent. Ils disent que nous avons péché contre l'Éternel. Alors on voit que Israël, non seulement ils ont retiré, ils ont débarrassé, ils ont fait le ménage, mais ils sont arrivés à un point où ils font une confession publique et disent nous avons péché contre l'Éternel. Et ils confessent publiquement. Il est possible que l'eau répandue ici soit simplement un symbole du cœur qui se repent. Un cœur repentant qui répand devant Dieu. Ou tout simplement un véritable renoncement. Il est associé au jeûne ici. Nous avons péché contre l'Éternel. Voilà la raison pour laquelle que Dieu les avait frappés. Alors ils se posaient la question, mais pourquoi l'Éternel nous a fait battre? Mais voilà la raison. Parce que nous avons péché contre l'Éternel. Voilà la raison de leur souffrance. Voilà leur raison maintenant de leur gémissement. Ici, nous avons une véritable confession du mal. Ils ont confessé, il y a une confession du péché, une reconnaissance du péché. Et vers la fin du verset 6, Samuel, le texte nous dit, Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Samuel a remis les choses en ordre. C'est intéressant parce qu'on voit que Élie, son prédécesseur qui était là, il a été sacrificateur pendant 40 ans. Et à la fin de la vie d'Élie, on voit que la gloire a été bannie en Israël. Et là, on voit Samuel rétablir les choses. Samuel a jugé le peuple et la gloire de Dieu est revenue en Israël. Et au verset 7, les Philistins, alors là, ils ont entendu parler de ce rassemblement à Mitzpah. Alors, il dit, l'occasion est belle d'en finir avec les Israélites une fois pour toutes. Alors, on dit que les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah, les ducs Philistins montèrent contre Israël. C'est sûr que dans la tête des Israélites, ce moment-là, il doit se passer bien les affaires. Alors, parce que le souvenir des deux dernières défaites sont encore très vives, sont encore là. Mais ça va être quoi leur réaction maintenant? On voit que la réaction est différente. Les Israélites la prirent et eurent la crainte. Alors, il n'y a plus d'arrogance de dire, on va aller chercher l'arche, on va aller contre les Philistins. Maintenant, c'est l'effet contraire. Ils ont peur, ils sont dans la crainte. Ils ont la frousse. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils sont partis, ils se sont rassemblés à Mitzpah pour un rassemblement où ils confessent, right? Ou que Samuel les a réunis. Ils ne sont pas en mode de combat. Alors j'imagine, ils n'ont pas pensé à amener leur épée, leur bouclier ou whatever, leurs armes. Ils sont venus pour se réconcilier avec leur Dieu. Donc ils ne sont pas en mode bataille, combat, stratégie, etc. Mais là, alors l'ennemi frappe à leur porte. On peut entendre les pas des Philistins qui marchent contre eux. Alors là, ils ont la frousse. Ils n'ont pas d'âme, eux, avec eux. Ils ont... Alors, ils s'avouent impuissants. Et là, ils cherchent le secours de Dieu. Alors, ils demandent et humblement, ils admettent humblement dépendre de la prière. Et c'est ça qu'ils disent au verset 8. Ils disent, Samuel, les Israélites disent à Samuel, ne garde pas silence, mais crie à l'Éternel. Crie pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Ils s'en remettent humblement à la grâce de Dieu. Ils s'en remettent... Ils sont dépourvus. Ils sont dépourvus, ils s'en remettent à Dieu. Crie pour nous à l'Éternel, notre Dieu. Notre secours... En fait, ils sont en train de dire, Samuel, notre secours ne dépend pas de nous, Samuel. Notre délivrance ne dépend pas de nous, Samuel. Ou encore notre capacité, notre force. Mais crie à l'Éternel, notre Dieu. Alors on voit Israël, une humilité qui est là, une dépendance. L'Éternel est à nouveau leur Dieu. Ils ont appris que Dieu seul est leur secours. Et non l'arche. Alors, au verset 9, Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Intéressant parce que Samuel n'était pas sacrificateur, il était prophète. Mais il officiait en cette occasion comme sacrificateur en offrant un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. Et le texte nous dit que c'est un holocauste. Ce qui veut dire que le sacrifice était entièrement brûlé sur l'autel. L'holocauste, c'est un sacrifice volontaire et celui qui l'offrait le présentait pour de son propre gré. Alors, c'est ce sacrifice volontaire que Samuel fait. C'est un sacrifice qui devait être sans défaut, sans tâche. L'agneau qu'il a présenté devait être sans défaut, sans tâche. L'holocauste était aussi pour faire expiation. L'holocauste était un sacrifice consumé sous l'autel par le feu et d'une odeur agréable à l'Éternel. Alors, n'est-ce pas, on voit ici une belle image de notre Sauveur Jésus-Christ qui est consumé comme une holocauste sur la croix. Il fut un sacrifice agréable à Dieu dans lequel que nous avons pu nous rappeler en prenant la table ce matin. C'est une belle image. Nous voyons dans ce sacrifice que Samuel offre l'image de Christ sur la croix qui accomplit la volonté de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, qui était volontaire, c'est lui qui s'est donné, qui était sans tâche, sans faute, sans péché. Et c'est en raison de ce sacrifice que Dieu nous accepte. Alors la délivrance de la main des Philistins ne pouvait pas venir qu'après la repentance sincère du peuple d'Israël et le retour de tout cœur à l'Éternel. Et ne pouvait pas non plus que sur la base du pardon et du sacrifice expiatoire, l'image que l'agneau présenté par Samuel. Et voici, à la fin du verset 9, la réponse maintenant de l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, Samuel, et l'Éternel répondit. Wow! J'imagine que le sacrifice était même pas encore en train de finir de consumer que Dieu a déjà répondu. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, Les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. En ce jour, l'Éternel fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins. Il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Wow! La réponse était rapide. Alors, il y a un vent de panique qui s'ensuit dans le camp des Philistins, et ce qui a permis aux Israélites de pourchasser et de les battre. À la fin du verset 11, il dit que les Israélites sortirent de Mitzpah, poursuivèrent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Dieu les a délivrés avec puissance. D'ailleurs, la maman de Samuel avait prophétisé ceci. Elle avait dit dans 1 Samuel 2, 10, dans un cantique qu'elle a écrit, Anne dit ceci, les ennemis de l'Éternel, au verset 10, trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. Et j'aime une prière. J'aimerais ça vous le lire. C'est l'intercession d'Ézéchias dans Ésaïe 37. Rapidement. En fait, c'est dans Ésaïe 37, en fait, il est question du roi d'Assyrie, Sennacherib ou Sennacherib, dépendamment de la version que vous avez. Le roi d'Assyrie, écoute, le gars, il faisait la pluie et le beau temps à cette époque. Personne ne pouvait lui résister. Alors, Ézéchias, avec arrogance, il vient devant le peuple Israël. Alors Ézéchias fait cette prière devant l'Éternel à partir du verset 16. Il dit, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'Éternel, incline ton oreille, écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles de Sennacherib a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays. Et ils ont jeté les dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es éternel. Que toi seul es éternel. Voilà Ézéchias devant une situation, fait à peu près la même prière que le peuple Israël. Il s'en remet à Dieu. Et si on lit plus loin dans le verset 36 du même chapitre, on voit que l'ange de l'Éternel frappa les Assyriens et il y a eu 185 000 morts. Et au verset 38, Sennacherib est frappé par l'épée par ses propres fils. L'Éternel seul est Dieu. L'Éternel seul est Dieu. Asaph nous invite à l'invoquer. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, dit Asaph dans le psaume 50. Crie à l'Éternel, expose ta cause à l'Éternel, présente-lui ta cause. Il te délivrera. Il te sauvera. Le psaume 34, on dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. De toute leur détresse. Seul l'Éternel est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Alors on voit que Samuel prit une pierre et le plaça entre Mitzpah et Shen. Il appela ce nom Ébénézer. Jusqu'ici, dit-il, l'Éternel nous a secourus. En fait, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce geste ou quelqu'un qui dresse une pierre. Jacob l'a fait sur la tombe de Rachel dans Genèse 35, 20. Et le même Jacob, il vit l'Éternel dans un... pendant qu'il dormait, en tout cas, il voit les anges et à son réveil, il est troublé. Il confesse que Dieu est ici, la présence de Dieu est là. Alors il met une pierre et il l'appelle Bethel, la maison de Dieu. Mais on voit que Samuel, en posant la pierre, Il dit, jusqu'ici, Dieu, l'Éternel, nous a secourus. Alors Samuel décide de faire un mémorial. Et ce mémorial pour rappeler au peuple que c'est l'Éternel seul. C'est l'Éternel seul qui a la capacité de les sauver. Ébénézer, c'est le souvenir de la grâce de Dieu. Alors comme, c'est comme on voit Samuel poser la pierre et là il pense tout à l'oppression que Israël a subie pendant 20 ans. Et là il pense, il voit comment que la victoire de Dieu, et là il a souvenir comment que Dieu est bon et comment que Dieu fait grâce. Et malgré le péché du peuple d'Israël, Dieu fait grâce. Et on voit que la minute que Israël s'est tourné vers Dieu, crie à l'Éternel, Dieu répond. C'est le Dieu de grâce, le souvenir de la grâce de Dieu. Indépendamment des péchés du peuple, et Dieu agit c'est la même façon avec nous aujourd'hui. Indépendamment de ce que toi et moi aurions fait, la minute que tu tournes le regard vers Dieu et que tu cries à lui, Dieu sauve. Dieu sauve et Dieu délivre. Samuel dresse un mémorial en souvenir de la grâce de Dieu manifestée à Israël. Le peuple de Dieu doit se souvenir des secours et des délivrances que Dieu lui procure. Jusqu'à maintenant, Dieu les a secourus. Et peut-être là, ils ont une question, mais qu'est-ce qui va arriver plus tard? Qu'est-ce qui va arriver à l'avenir? Mais aussi, ce mémorial est là pour rappeler que puisque Dieu vous a délivré dans le passé, il est capable de vous le faire encore. Il est capable de vous secourir dans les jours à venir, dans les années à venir, dans l'avenir. Et ce mémorial est là lorsque le peuple regarde Ébénézer et ils disent, Dieu est capable de nous délivrer encore. Et là, on peut regarder l'avenir et la tête tranquille. En fait aussi, c'est pour rappeler aux générations futures que, il y a une histoire là. Il y a un passé. C'est pour raconter que aux enfants, des enfants d'Israël, que voilà comment que Dieu s'est manifesté dans sa grâce au peuple en les délivrant. Ce mémorial est là pour rappeler aux générations futures, pour ramener à la mémoire de cette génération une grande délivrance qu'il y a eu en Israël. Alors, il avait ça en objectif. Il avait ça probablement en tête, Samuel, lorsqu'il regardait le passé du peuple, il regardait la délivrance, et là, il regarde le futur. Il dit, ce serait un mémorial pour les enfants des enfants d'Israël. Chers amis, si vous êtes là ici, Dieu délivre. Dieu nous délivre des ennemis pires que les Philistins. Pires que les Philistins. En fait, je ne connais pas votre angoisse, votre peur ce matin. Peut-être que vous savez pas à qui ou vers qui tourner, à qui aller. Peut-être face à la mort. Vous savez pas quoi faire face au problème de la vie. En fait, vous voyez pas aucun espoir. Mais crie à l'Éternel. Je t'invite à crier à l'Éternel ce matin. De revenir à lui d'un cœur sincère, de confesser tes péchés et de servir Dieu seul. Il répondra. Et frères et sœurs, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Il a vaincu nos pires ennemis, le péché, la mort, afin que nous ayons la paix avec lui. Et nous pouvons nous réjouir ce matin de ce que Dieu a fait pour nous. Non à cause de nos propres forces, non à cause de nos œuvres, non à cause de quoi que ce soit que nous aurions pu faire, mais à cause de sa grâce et à cause du sacrifice dont nous avons pris, commémoré ce matin, à cause du sacrifice de son Fils à la croix. Et à cause de cela, il est capable et il veut nous secourir et il veut intervenir dans nos vies. À cause de la victoire de Jésus-Christ à la croix. C'est notre mémorial par excellence qui nous rappelle ce que Dieu a été pour nous et ce qu'il a fait pour nous. La table du Seigneur est là pour nous le rappeler. Et comme Pasteur Richard l'a lu ce matin dans Luc, Luc 22. On doit se rappeler tous les jours que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et à chaque fois qu'on prend la table, à chaque fois qu'on célèbre ce mémorial, on se rappelle que le prix payé à la croix, Christ, l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés. C'est le mémorial de la mort de Christ. Alors, se souvenir de lui, se souvenir de son sacrifice, de son corps, c'est nous rappeler que Dieu interviendra. Alors, on est capable de pouvoir voir ce mémorial, ce sacrifice fait à la croix, comment que Dieu est intervenu dans nos vies, comment que nous, nous étions dans un sale état et que Christ nous a lavé, nous a purifié pour nous ramener dans une réconciliation avec le Père. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire à l'avenir pour nous? Rien n'est impossible à Dieu. Alors revenons à lui de tout cœur. Exprimons notre gratitude à lui. Et ça va nous encourager à lui faire confiance à nouveau dans les moments difficiles où nous aurons encore besoin de son secours. Ébénézer, jusqu'ici, le Seigneur, l'Éternel nous a secourus. Amen.
Merci Seigneur Dieu.